Vous êtes nombreux, nombreuses. J'en suis très heureux moi-même. Bon, vous avez peut-être constaté que ma démarche commençait à s'alourdir un peu. Si l'activité d'aujourd'hui n'était pas celle de foi et partage, j'aurais dit non. Mais foi et partage, c'est spécial. Et pour deux raisons, c'est que je sais que vous êtes bienveillants et que par conséquent, vous allez accepter que j'ai des limites que je n'avais pas. Et surtout parce que lorsque je viens à foi et partage, ça éveille en moi là ce que j'ai peut-être de plus profond comme réaction pastorale du pasteur qui connaît ses brebis et qui les aime. Et aussi parce que je sais que c'est un milieu où il y a beaucoup d'amour, où il y a beaucoup de dévouement. Et quand on sait ça, on oublie ses limites. Et puis, il me semble que pour moi, ça ne posait pas problème, même si, encore une fois, je n'accepte plus d'engagements qui sont de cette ampleur-là. Je me permets aussi une réflexion. Tout à l'heure, on a été invité à regarder sur l'écran les paroles d'un chant et d'une prière. Et puis, je me suis aperçu que même si c'était pas très, très net, j'arrivais encore à lire. Ça m'a encouragé parce que je dois passer cette semaine un examen pour le renouvellement de mon permis de conduire. Et j'ai hésité beaucoup même à faire la démarche en me disant, le Seigneur me demande peut-être de faire ce renoncement-là, comme il m'en a demandé d'autres. Et puis, je trouve que c'est important, la période du vieillissement, c'est que on est appelé à renoncer aux choses qui nous paraissent tellement élémentaires. Et au départ, là, ça, en tout cas, moi, ça m'a ébranlé beaucoup. Mais après y avoir réfléchi, je me dis, le Seigneur est tellement bon de nous permettre de nous dépouiller, ce que le Monseigneur de Laval appelait la désappropriation. Saint François de Laval avait à la base de sa spiritualité ce qu'il appelait la désappropriation. Se désapproprier, c'est d'abord céder des biens matériels qu'on peut avoir. C'est ce qu'il a fait en créant son séminaire à qui il a donné tout l'argent qu'il avait, l'argent hérité de sa famille. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Se désapproprier, c'est renoncer aux biens qu'on possède, mais les biens qui sont parfois les plus difficiles quand il s'agit de d'y renoncer, ce sont nos capacités, nos facultés, et en particulier nos facultés élémentaires. Je disais tout à l'heure, en conversation, vous allez deviner peut-être avec qui, je lui disais, bon, je m'aperçois qu'en vieillissant, on est obligé de renoncer à ses capacités les plus élémentaires. Un bébé qui a peine à marcher va tomber. En général, il se fait pas mal. Une personne âgée qui tombe, elle a des chances, ou elle risque beaucoup plutôt, de se faire bien mal. Alors, c'est comme ça. J'ai constaté à travers mon expérience personnelle qu'on meurt pas habituellement de sa maladie mortelle. Autrement dit, on a des maladies que ce soit le cancer, que ce soit telle ou telle maladie pour laquelle on n'a pas encore de remède, on se dit on va mourir de ça. Mais dans la plupart des cas, on ne meurt pas de sa maladie mortelle, on meurt d'une pleurésie, d'une pneumonie qu'on a attrapée, et très très souvent d'une chute qu'on a faite et qui a précipité les bobos qu'on pouvait avoir. Bien moi, et je rattache ça justement à la vertu d'espérance, moi je vous dis, chanceux sommes-nous lorsque, ça peut être dur ce que je vous dis là, parce que vous allez vous dire, ben voyons donc, mais je me dis quand même, chanceux, chanceuses des personnes qui ont le temps de se désapproprier et qui, graduellement, font le sacrifice des capacités qu'on pouvait avoir. C'est l'étape que je franchis à l'heure actuelle, et puis je sens le besoin de vous dire ça au départ. Et pour moi, c'est ma façon de vivre l'espérance au jour le jour, de vivre le moment présent. Ça introduit un peu le sujet que j'ai à traiter devant vous. Vous êtes à la 10e et dernière rencontre de l'année 13-14, et toujours autour du thème de l'espérance. L'espérance, comme vous le savez, c'est une vertu théologale. Comme ces deux consœurs, et j'emploie cette expression-là un peu pour introduire un texte que je vais vous lire, l'espérance, donc, c'est la consœur de la foi et de la charité. Il y a trois vertus théologales. Rappelons un peu ce que veut dire vertu et vertu théologale. Une vertu, au sens général du mot, c'est une disposition à faire le bien. Une vertu, une disposition à faire le bien. Il y a deux grandes catégories de vertus. Il y a les vertus théologales, puis les vertus cardinales. Les vertus théologales ont pour objet direct Dieu. Ce sont les plus importantes, ce sont les plus essentielles, les plus fondamentales. C'est la foi, l'espérance, la charité. Il y a aussi des vertus cardinales. Ça, ce n'est pas des vertus qui sont réservées aux cardinaux. Les vertus cardinales, ce sont les vertus maîtresses de sa conduite morale. Il y en a quatre, comme vous savez. C'est la force, la tempérance, la justice et la prudence. Toutes les vertus qu'on peut avoir, là, qui sont des vertus qui se situent dans la ligne de la conduite morale, se rapportent à l'une ou l'autre de ces grandes vertus maîtresses. Quant aux vertus théologales, je le disais, elles ont pour objet direct Dieu. La foi en Dieu, l'amour de Dieu, c'est la charité, et puis l'espérance de voir Dieu et d'une façon éternelle. Mais on insiste peut-être trop, on a peut-être trop ça dans la tête que l'espérance, ça c'est dirigé vers un avenir très flou. Je voudrais vous démontrer un peu aujourd'hui que l'espérance, c'est dans notre vie courante. C'est pas rien qu'orienté vers un avenir, que c'est au jour le jour que l'espérance se vit, comme les deux autres grandes vertus théologales. La charité et la foi, ce qu'elles couvrent est tellement vaste qu'on ne saurait épuiser leur champ d'exercice. Tandis que l'espérance, quand on regarde même la définition là, qu'en donne le catéchisme de l'Église catholique, ça a l'air bien réduit à côté de la charité puis de la foi. La foi, c'est l'adhésion à la pensée et à la personne de Dieu. Et ce Dieu, il est incommensurable. L'objet de la foi, c'est infini. On n'a pas de misère à trouver que la foi, c'est une grande vertu. C'est la même chose pour la charité. La charité, c'est l'amour de Dieu et son corollaire qui est l'amour du prochain. Et ça aussi, c'est tellement grand, ça va tellement loin. Quand il s'agit de l'amour, même quand il ne s'agit que d'amour humain, pensez à toutes les chansons qui ont pour thème l'amour humain. Pensez à tous les arts qui vont illustrer l'amour. La charité, c'est une vertu qui est tellement ample, qui est tellement grande, qui couvre tellement de champs. À côté de ça, là, l'espérance a de l'air bien pauvre, la pauvre espérance. À ce sujet, je vais commencer par d'autres choses d'abord, pour vous montrer que ce que je dis reflète aussi l'enseignement d'Église. Je vais vous lire dans ce qu'on appelle le compendium du catéchisme de l'Église catholique. Ça, c'est le résumé du gros volume du catéchisme de l'Église catholique qui a été publié. Ça avait été demandé par le Concile, ça a été demandé par un synode par la suite, et on a fini par le publier. Évidemment, le catéchisme de l'Église catholique, là, le gros, ça n'a rien à voir comme, peut-être comme contenu, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, mais ça n'a rien à voir comme ampleur avec le catéchisme que des personnes de mon âge et de 20 ou 30 ans de moins ont connu à l'école. Soit dit en passant, le catéchisme de l'Église catholique, le catéchisme qu'on avait à l'école, nous autres, là, ça a été commenté par un religieux de Saint-Vincent-de-Paul. Nous autres, on n'a jamais été des enseignants, mais on avait une école au patron Saint-Vincent-de-Paul, qui a été démolie depuis ce temps-là, là, sur la côte d'Abraham. Et on accueillait des enfants de familles démunies qui n'allaient pas à l'école parce que on avait peur d'être trop mal habillés à côté des autres. Ou bien encore parce qu'il fallait payer, même à l'école publique dans le temps. Et puis, on n'avait pas l'argent pour ça. Alors, le patronage Saint-Vincent-de-Paul avait ouvert une école pour enfants pauvres qu'on habillait, qu'on nourrissait, et ça leur permettait de venir à l'école, sinon ils n'y seraient pas allés. Et puis, on avait un père qui s'appelait le père Lasfargue, c'était un Français. Et lui, il s'était rendu compte que le catéchisme qui était approuvé par des évêques, là, c'est une série de questions et de réponses, il y en avait 508, vous vous souvenez peut-être de ça, là, hein? Alors, ce catéchisme-là, en dépit du fait que ça voulait s'adresser aux enfants, c'était quand même un résumé de la théologie, puis parfois, c'était pas facile à comprendre. Et comme les maîtresses d'école n'avaient pas toujours beaucoup de préparation pédagogique, parfois elles n'avaient qu'une 10e ou 11e année, équivalent de ça, pour enseigner dans les écoles de rang, en particulier dans les campagnes, eh bien, Père Lasfargue s'était rendu compte qu'elle n'arrivait pas à expliquer comme il faut le catéchisme. De sorte que les enfants apprenaient ça par cœur comme des perroquets, mais ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Alors, il était allé trouver l'archevêque de Québec, puis il avait dit, « Moi, j'ai préparé des explications pour chacune des réponses. Et puis, je voudrais être approuvé, évidemment, par vous autres, les évêques, là. Et puis, ben, ça va demander de l'argent. Ça, là, on n'a pas beaucoup d'argent. Mais en tout cas, je vous apporte, là, mon travail. Alors, il a déposé ça sur le bureau du cardinal Taschereau. Puis le cardinal Taschereau a accueilli ça un peu froidement. D'abord, il n'a pas aimé ça se faire dire que le catéchisme que les évêques avaient approuvé, parce que c'était dit le catéchisme là approuvé par des évêques de la province des provinces ecclésiastiques de Ottawa, Québec, Montréal, etc. Bon, alors le père, c'est comme s'il leur disait votre catéchisme. Là, je te dis que pas facile, cela, puis c'est pas fort ça, comme manuel scolaire. Alors, c'était pas très agréable de se faire dire ça. Et puis, ça a pris du temps avant que le cardinal réponde. Mais le père est revenu à la charge, puis a fini par lui permettre de publier ce catéchisme expliqué. Alors, on avait de tout petits catéchismes, questions et réponses, puis le catéchisme expliqué avec des petites explications en caractère petit, là, hein, entre chacune, vous vous souvenez de ça probablement. Et bien maintenant, le catéchisme de l'Église catholique, c'est un résumé de théologie, pas toujours facile à comprendre, et c'est pourquoi on a publié ce qu'on a appelé le compendium, c'est un drôle de mot latin, cela, hein, le résumé, au fond, du catéchisme de l'Église catholique. Et puis, on lui a donné la même forme que le catéchisme qu'on avait à l'école, question-réponse, question-réponse, question-réponse. Je suis allé voir les définitions des trois vertus théologales. Et vous allez voir que ça confirme ce que je vous disais, à savoir que l'objet de la charité puis de la foi, c'est immense, c'est très grand. Alors que pour l'espérance, mon Dieu, ça se limite à pas grand-chose, en apparence en tout cas. Qu'est-ce que la foi? Question 386. Qu'est-ce que la foi? La foi est la vertu théologale par laquelle nous croyons en Dieu et à tout ce qu'il nous a révélé, et que l'Église nous propose de croire parce que Dieu est la vérité même. Imaginez-vous, c'est vaste ça. Par la foi, l'homme s'en remet librement à Dieu. C'est pourquoi le croyant cherche à connaître et à faire sa volonté, car la foi agit par la charité. Alors, on a de la matière quand il s'agit de la foi. La charité. La charité est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes. Par amour de Dieu, Jésus en a fait le commandement nouveau, la plénitude de la loi. Elle est le lien de la perfection, c'est une citation de saint Paul, le fondement des autres vertus qu'elle anime, inspire et ordonne. Sans elle, je ne suis rien et rien ne me sert. Une citation de saint Paul encore. C'est quelque chose. Vous voyez comment est-ce que c'est vaste, la matière de la foi et de la charité. L'espérance. L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons et attendons de Dieu la vie éternelle comme notre bonheur, mettant notre confiance dans les promesses du Christ et comptant sur l'appui de la grâce du Saint-Esprit pour mériter la vie éternelle et pour persévérer jusqu'à la fin de notre vie sur la terre. C'est un peu flou, hein? Puis ça a l'air loin, pas pour rire, tout ça. De sorte que l'espérance, même si c'est une vertu théologale, elle nous paraît assez petite, assez peu facile à encercler pour qu'on puisse en dire quelque chose qui peut nous nourrir dans la vie quotidienne. C'est comme si tout ça était orienté vers la vie éternelle, vers ce qui va arriver après la mort. C'est important, bien sûr que c'est important. On n'a qu'à voir actuellement la désespérance des personnes qui ne croient pas en Dieu. ou encore des personnes qui croient en Dieu, mais un espèce de Dieu de bien lointain, de grand boss, là, qui a fait l'univers et qui est bien loin de nous autres. C'est le Dieu d'une grande partie de notre monde, de notre entourage. Soit que on n'en reconnaît pas l'existence de ce Dieu, qu'on essaye d'expliquer ce qu'on attribue à Dieu autrement, uniquement par la science. Soit que on croit en Dieu, mais quel Dieu? Il n'y a pas longtemps, je vais faire attention pour ne pas être trop précis, pour ne pas vous deviner de quelle personne il s'agit. Je rencontrais là, dans un rassemblement un personnage qui est important de la ville de Québec, qui l'a été surtout. Mais j'en dis pas plus. Mais justement, qui s'en vient me trouver puis qui me dit, moi là, Dieu, oh, j'y crois, mais c'est qui ça Dieu? J'étais navré. Je le regardais puis je me disais, comme on peut avoir eu des rôles importants et être pauvre quand il s'agit des valeurs spirituelles. Je suis sûr que c'est un très honnête homme, je suis sûr de ça, là, hein. J'en ai des preuves. Mais ça me faisait mal de voir comme c'était court ce qu'il pouvait avoir comme connaissance de Dieu. Alors, je me suis contenté de dire, ben, je pense que votre Dieu, là, c'est un Dieu un petit peu lointain, hein. Vous connaissez l'Évangile? Ah, oh, oui, bien sûr. En avez-vous un? Oui, c'est vrai, ben oui, j'ai une belle Bible, là, hein, puis ça fait bien dans ma... Ah, bon. J'ai dit, si elle, ça va dire qu'elle a un peu de poussière dessus, là. Vous pourriez peut-être la dépoussiérer un peu. Et puis, ben, je ne veux pas vous en demander trop, là, mais prenez au moins la dernière partie de l'Évangile. Puis si vous en faisiez une petite lecture chaque jour. Je l'ai rencontré, là, quelques jours après. Je ne sais pas s'il persévère encore, mais il m'a dit, j'ai suivi votre conseil, là. Mais mon Dieu, que j'aurais besoin d'explications. Bien oui. Bon. Encore une fois, ça n'a pas diminué, pas du tout, l'admiration que j'ai pour cette personne, mais je découvrais tout à coup sa grande pauvreté. Et je me disais, je connais bien des petites gens qui seraient capables de parler de Dieu et longuement, parce que ces personnes ont une connaissance personnelle de Dieu, l'ont approché dans son intimité. Et c'est pourquoi je trouve important que l'espérance comme vertu théologale soit présente dans nos vies de tous les jours. Je suis sûr que vous n'avez pas de misère à reconnaître que la foi vous habite. Vous n'avez pas de misère à reconnaître que la charité vous habite et habite les personnes de votre entourage, les personnes qui vous apportent du secours, qui vous apportent de l'assistance. Il y en a tellement. Je vais y revenir d'ailleurs, si j'en ai le temps. Mais l'espérance, c'est la foi en ce qui n'est pas encore, à ce que l'on ne peut qu'entrevoir, d'après même la définition du catéchisme. Par exemple, la résurrection des corps, la vie éternelle. Dans notre credo, là, c'est les deux dernières petites affaires à la fin, là, complètement, là. Hein? Je crois en l'Église, etc., là, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle, amen. Pas bien long, ça. Et ça, c'est l'objet officielle, je dirais, de l'espérance. Ça m'amène à vous lire un passage d'un texte. Je ne sais pas si par hasard, il y en a peut-être qui l'ont lu, le conférencier avant. Si je vous dis Charles Péguy, quelqu'un vous l'a lu ici, dans les conférences? Ah bon, mais vous le connaissiez. Bon. Je vous l'aurais peut-être lu quand même si vous m'aviez dit que quelqu'un l'a déjà lu, mais j'aurais été plus court dans ma lecture. Je vous lirai pas tout ça, parce que le texte de Péguy sur l'espérance couvre 16 pages. C'est évident que je vous lirai pas tout ça. Mais je trouve que Péguy traduit bien à la fois l'importance de la vertu d'espérance en même temps que la difficulté qu'on a à percevoir son objet, sur quoi ça porte. Vous connaissez un peu le style de Péguy. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le personnage, d'abord, il a vécu entre 1873 et 1914. Ça, c'est la génération de mes grands-parents à moi. C'est quand même pas si loin, hein? Bon. Et le texte que je vais vous lire date de 1912. Donc, le texte a 102 ans. Ça aussi, c'est pas si vieux que ça. Péguy est un poète. Est un poète et un auteur qui a le sens de l'image. Et qui dit des choses avec une simplicité qui est un peu désarmante au point que ça pourrait nous dérouter un peu. Mais c'est important que je vous dise ça parce que c'est bien loin du style d'un catéchisme. Ça, c'est de la théologie. Hein. Lui, c'est de la poésie. Mais parfois, la poésie nous aide à découvrir des aspects que la théologie ne nous apporte pas. Voici ce qu'écrit Péguy. Il y en a qui connaissent ce texte très probablement. « La foi, ça ne m'étonne pas. Ça n'est pas étonnant. J'éclate tellement, c'est Dieu qui parle, là. J'éclate tellement dans ma création, dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles, dans toutes mes créatures, dans des astres firmament et dans des poissons de la mer. » Et là, pendant deux pages, il énumère tous les endroits où on découvre des raisons de croire. Je la découvre dans l'homme et dans la femme, sa compagne, et surtout dans les enfants. Et là, il développe ça beaucoup. Le regard de l'enfant, le sourire de l'enfant, les questionnements de l'enfant, tout ça nous révèle la foi. Bon, évidemment, j'en passe énormément, là, ça serait trop long. Et puis, après avoir énuméré tout ce qu'il y a dans la création, il dit « Et dans ce qui est arrivé à mon fils, à cause de l'homme, ma créature que j'avais créée, dans l'incorporation, dans la renaissance et dans la vie et dans la mort de mon fils, là, je trouve la foi. Et c'est immense l'objet de cette foi. Et dans le saint sacrifice de la messe, dans toute naissance et dans toute vie et dans toute mort, et dans la vie éternelle qui ne finira point, qui vaincra toute mort. J'éclate tellement dans ma création que pour ne pas me voir vraiment, il faudrait que ces pauvres gens fussent aveugles. » Et il passe à la charité. La charité, dit Dieu, ça ne m'étonne pas. Ça n'est pas étonnant. Ces pauvres créatures sont si malheureuses qu'à moins d'avoir un cœur de pierre, Comment n'auraient-elles point charité les unes des autres? Comment n'auraient-ils point charité de leurs frères? Comment ne retireraient-ils point le pain de la bouche, le pain de chaque jour, pour le donner à de malheureux enfants qui passent? Et mon fils a eu d'eux une telle charité. La foi, à moins qu'on soit aveugle, elle est normale, nous dit Peggy. La charité, elle est normale. Et c'est tellement vrai que, dans le cas de la charité, qu'on ait la foi ou non, on la pratique sans le savoir. Et c'est le cas de bien des gens. Et il aborde l'espérance. Ah! Mais l'espérance, dit Dieu, voilà ce qui m'étonne. La charité, la foi, ça ne l'étonne pas. Mais l'espérance, dit Dieu, voilà ce qui m'étonne moi-même. Ça, c'est étonnant. Que ces pauvres enfants voient comme tout ça se passe et qu'ils croient que demain ça ira mieux. Qu'ils voient comme ça se passe aujourd'hui et qu'ils croient que ça ira mieux demain matin. Ça, c'est étonnant. Et c'est bien la plus grande merveille de notre grâce. Et j'en suis étonné moi-même. C'est toujours Dieu qui parle par la bouche de. Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance, et je n'en reviens pas. Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout, cette petite fille espérance immortelle. Car mes trois vertus, dit Dieu, les trois vertus, mes créatures, mes filles, mes enfants, sont elles-mêmes comme mes autres créatures, de la race des hommes. La foi est une épouse fidèle, la charité est une mère ardente, pleine de cœur, ou une sœur aînée qui est comme une mère. L'espérance est une petite fille de rien du tout. Et il reprend ses thèmes. La foi va de soi. La foi marche toute seule. Pour croire, il n'y a qu'à se laisser aller. Il n'y a qu'à regarder. J'en passe toujours des bouts, là. La charité va malheureusement de soi. La charité marche toute seule. Pour aimer son prochain, il n'y a qu'à se laisser aller, il n'y a qu'à regarder tant de détresse. Pour ne pas aimer son prochain, il faudrait se violenter, se torturer, se tourmenter, se contrarier. Pour ne pas aimer son prochain, mon enfant, il faudrait se boucher les yeux et les oreilles à tant de cris de détresse. Mais l'espérance ne va pas de soi. L'espérance ne va pas toute seule. Pour espérer, mon enfant, il faut être bien heureux, il faut avoir reçu une grande grâce. La petite espérance, j'achève, la petite espérance s'avance entre ses deux grandes sœurs. Et on a deux grandes sœurs, c'est les deux autres vertus, évidemment. La petite espérance s'avance entre ses deux grandes sœurs et on ne prend pas seulement garde à elle. Sur le chemin du salut, sur le chemin charnel, sur le chemin raboteux du salut, sur la route interminable, sur la route entre ses deux sœurs, la petite espérance s'avance. Entre ces deux grandes sœurs, celle qui est mariée et celle qui est mère, et l'on a d'attention, le peuple chrétien n'a d'attention que pour les deux grandes sœurs. La première et la dernière qui vont au plus pressé, au temps présent, à l'instant momentané qui passe. Le peuple chrétien ne voit que les deux grandes sœurs, n'a de regard que pour les deux grandes sœurs, celle qui est à droite et celle qui est à gauche, et il ne voit quasiment pas celle qui est au milieu. Et il termine, je termine, moi en tout cas, c'est elle, cette petite, qui entraîne tout, car la foi ne voit que ce qui est, et elle, elle voit ce qui sera. La charité n'aime que ce qui est, et elle, elle aime ce qui sera. Pensez pas que c'est pas beau, hein? Ah! Cet extraordinaire Peggy, hein? Chrétien, poète chrétien. Bon. Oh là là. Je vais essayer de contracter un peu. Cependant, il n'en demeure pas moins que même si c'est beau, la poésie de Peggy, ce qui est plus fondamental encore, c'est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi j'invite Jean, monsieur, je ne sais pas si on a désigné un lecteur. Ah bon, d'accord. Merci, monsieur. Alors, je vous invite à lire le dernier paragraphe de l'Évangile de Matthieu, qui est le fondement de l'espérance et d'une espérance de tous les jours, pas rien qu'avec objet la vie éternelle. On écoute. Oui. Ah, monsieur. Oui. Je comprends, j'ai plusieurs images. Alors, il n'avait pas la bonne. Voyons. J'en ai trop. Alors, Matthieu, 28-20, c'est ça. Alors, écoutons bien, encore une fois, c'est la fin de l'Évangile de Matthieu. Ce passage, qui est le dernier paragraphe de l'Évangile de Matthieu, c'est ce passage qui nous permet d'être remplis d'espérance dans notre mission de baptiser. Jésus envoie en mission ses disciples et il leur dit de toutes les nations, faites des disciples. Merci. Le fait de la voix est en... C'est parmi les choses qui deviennent plus fragiles en vieillissant. La voix. De toutes les nations, faites des disciples. Parce que les apôtres ont été fidèles à cette mission. On est là aujourd'hui, dans cette chapelle. On est réunis comme chrétiens. Faites des disciples, c'est-à-dire des personnes qui auront une relation personnelle avec la Trinité et qui garderont mes commandements. La mission, elle est vaste. Elle est au-dessus de vos forces, dit Jésus. Mais il les rassure, ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Et j'aime à considérer que c'est l'objet premier de notre espérance. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » C'est le fondement de notre espérance. C'est ça qui nous permet d'aller toujours plus loin, selon le thème d'aujourd'hui. C'est le fondement de notre espérance, pas seulement pour notre résurrection et pour la vie éternelle, mais tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le Christ est retourné auprès de son Père et il intercède pour nous. Lui-même s'est appelé déjà l'avocat avant de donner le titre à l'Esprit. Il a dit « Je vais être votre avocat auprès du Père ». Mais il nous a envoyé l'Esprit pour qu'il nous accompagne, qu'il agisse en nous et qu'il nous permette d'avoir une confiance absolue parce que c'est Dieu qui nous accompagne. Quand on est convaincu de ça, là, il y a beau arriver toutes sortes de catastrophes. On adhère avec enthousiasme au message de Jésus. Et c'est ça, c'est l'espérance dans la vie de tous les jours. Rien n'est impossible à Dieu. Si on croit à ça, là, on n'a pas de raison de désespérer, malgré tout ce qu'il peut y avoir de signes parfois de désespérance. L'espérance, ça ne se limite pas avec ce qui va se passer après la fin du monde, mais ça se vit tous les jours et jusqu'à la fin du monde. C'est ça que j'aimerais que vous reteniez peut-être de mon intervention d'aujourd'hui. L'espérance, c'est une force pour continuer. Et il faut continuer dans un monde qui n'est pas toujours facile. Et c'est pour cela que je trouve important au moins de vous donner un tout petit aperçu, même si c'était une partie que je prévoyais un peu importante pour mon exposé. J'ai été trop bavard. Quand on regarde l'histoire de l'Église, à toutes les époques de l'histoire de l'Église, on a eu des raisons de penser qu'elle n'irait pas loin. Puis on continue encore à le dire. Vous avez des gens qui disent oh, « L'Église, là, c'est abaisse, là, puis elle s'en va, là. Hein. Ça n'a plus de raison d'être, ça, maintenant, là. Hein. » Et puis, ça peut être d'autant plus décourageant qu'on entend de nos baptisés qui vont dire « Oh, moi, je suis croyant, mais la messe, là, je ne suis pas pratiquant. » Je vais y revenir d'ailleurs dans mon homélie en fin de journée un peu. On entend ça régulièrement, de sorte que on peut finir par se dire, mais est-ce qu'on s'en va à la dérive, là, que la jeune génération là, qui pousse, qui n'a plus même d'enseignement religieux à l'école, qui s'entend dire ça là, assez régulièrement. D'ailleurs, il l'entendait déjà quand il y avait de quand il y avait d'enseignement religieux à l'école, parce qu'il y avait bien des professeurs qui disaient, ben moi je vous enseigne ça, là, ben, moi j'y crois pas, mais ça fait rien, là, c'est la matière. Bon, c'était quasiment pire. Dans ces cas-là, pas d'une façon générale, il ne faut pas généraliser. On voit ça déjà dans les Actes des apôtres. On voit, quand on lit les Actes des apôtres, comment c'était fragile. À côté des circonstances où il y a eu des baptêmes en masse, là, puis des adhésions là, collectives de gens qui écoutaient Saint-Pierre, par exemple, là, tout de suite après la Pentecôte, bien, à côté de ça, il y a des résistances, puis des résistances très fortes à l'enseignement des apôtres. Ça nous est mentionné dans les Actes. Puis il se passe des choses qui sont scandaleuses, même parfois à l'intérieur des chrétiens. Là, je pourrais vous en énumérer, là, j'en ai plusieurs ici. Bon, mais c'était comme ça déjà. Ça ne s'est pas fait tout seul. C'était pas si simple que ça. Et puis, il y avait des tensions dans l'Église primitive. Quand il y a eu ce qu'on a appelé le premier concile de Jérusalem, c'est beaucoup dire quand on dit concile, ça n'avait pas d'envergure que ça peut avoir maintenant, mais il y avait des tensions énormes. C'est que dans l'Église, à ce moment-là, c'était surtout des Juifs qui s'étaient convertis au catholicisme. Mais ils voulaient conserver leur rite. Ils voulaient concilier l'enseignement de Jésus avec leur enseignement, puis parfois, ça ne se conciliait pas. Alors, il y avait deux grandes tendances. Et la tendance d'ouverture aux païens venait de l'apôtre Paul, qui n'était pas un choisi de Jésus lui-même. Puis, il y en avait qui le regardaient encore un peu de travers. Hein. Lui, il a déjà persécuté l'Église. Et puis là, il est converti, oui, mais... Il y a des ouvertures, là, on n'aime pas ça, là, qui disent que le jeûne n'est pas si important que ça, puis la circoncision, c'est plus nécessaire, ça. Oh là là! Il y avait des tensions énormes. Encore pire, lorsque, avec Constantin, l'autorité romaine, parce qu'à ce moment-là, c'était l'occupation romaine, puis la puissance romaine là, couvrait pratiquement tout l'univers connu à cette époque-là. Bien, à cette époque-là, tout à coup, voilà que on cesse la persécution, alors que l'Église s'était développée malgré la persécution, voilà que Constantin lui dit, moi, je deviens chrétien. Plus que ça, ça va devenir la religion officielle de mon royaume. Oh là là! Ça paraissait bien beau, cela, là, hein? Ça paraissait être la victoire de l'Église, de la garantie de son développement. Et comme ça couvrait le monde entier, ou à peu près, le royaume romain, ben, ça voulait dire que l'Église allait réaliser la promesse de Jésus. Hein, mon Dieu, ça n'a pas été si simple que ça. Là, les dissensions théologiques ont commencé. En particulier, Arius. Puis voilà qu'à un moment donné, les autorités romaines appuient Arius, qui n'était pas, dont la doctrine n'était pas acceptée par des évêques du temps. Il niait la divinité du Christ, c'était quand même pas rien, cela, là, hein. Pour lui, ça n'était qu'un homme célèbre. Il est arrivé que l'Église est passée par une période qui aurait pu être fatale pour son unité et même pour sa survie. Et puis, ben, je ne ferai pas toute l'histoire de l'Église, là, mais on connaît peut-être mieux la séparation qui est arrivée en l'an 1050 quelque chose. Ça a été la séparation de l'Église orthodoxe. Ça a été douloureux, ça. Et puis est arrivée la réforme protestante 500 ans plus tard. Ça aussi, ça a été douloureux. Et d'autant plus que c'était une période où l'autorité pontificale ne commandait pas tellement le respect. Il y avait deux familles, là, de la noblesse, qui se partageaient le pastorat universel de l'Église. Une fois, c'était un membre d'une caste, et puis la fois suivante, c'était un autre qui devait avoir son tour, et ainsi de suite. Puis c'était comme accepté, cela. Ça affaiblissait énormément l'Église. Et je dirais que par contraste, au moment où l'Église était à la fois une puissance militaire, civile et religieuse, le pape était chef des États pontificaux, qui faisait des alliances avec les chefs des grandes puissances environnantes, qui se partageaient les dépouilles de l'Empire romain. Ben, à cette époque même-là, heureusement qu'il y a eu des grands saints qui ont sauvé l'Église, parce que les scandales étaient terribles, même au niveau supérieur de l'Église. C'est quelque chose, cela. Alors, quand on voit nos misères actuelles, ça nous permet, à la lumière de l'histoire, de les minimiser, puis de nourrir notre espérance. Et c'est là qu'on dit, Dieu a promis d'accompagner son Église, il l'a tirée de situations très, très dangereuses, il continue à le faire. Et pourquoi je désespérerais? Puis j'appliquerais ça même d'une façon plus large à notre monde, en dehors de l'Église elle-même. Vous savez, quand on écoute les nouvelles, moi quand je visitais des personnes, des maisons pour personnes âgées, il y en a qui me disaient, « Ah, moi j'écoute plus les nouvelles, c'est trop décourageant. C'est trop décourageant. » Et c'est un fait. Vous savez, il y a un axiome qui dit « Good news, no news ». Des bonnes nouvelles, là, ça fait pas de la nouvelle, ça. Ce qui fait de la nouvelle, c'est des mauvaises nouvelles. Ah, ça, par exemple. Et puis, quand on peut réussir là à apporter de mauvaises nouvelles, même si ça ne concerne que des personnes, là, et puis qu'on les fait pleurer devant le monde, là, ah, ça, là, ça pogne, ça. De sorte que ça donne une image de notre monde qui est loin d'être encourageante. Et pourtant, même sur le plan strictement humain, on a fait des progrès énormes. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, là, j'avais ma vision du monde. Bon, c'était l'Angleterre en guerre avec la France, et puis l'Allemagne en guerre avec la France, et puis le Japon qui était avec l'Allemagne pendant la guerre et tout. Quand vous regardez ça maintenant, tous ces pays-là sont alliés. Il s'est fait énormément de progrès. Mais à côté de ça, on a encore des choses épouvantables. On a 50 millions d'humains qui vivent dans des conditions épouvantables. En Afghanistan, au Liban, à cause de la Syrie, tout ça, là. Quand on pense qu'à toutes les 10 secondes, il y a un enfant qui meurt de faim dans notre monde, à toutes les 10 secondes, pensez au nombre d'enfants qui sont morts depuis que j'ai commencé à vous parler, là. C'est comme ça. Dans un monde, pourtant, qui aurait tous les moyens de nourrir tout le monde, si seulement on faisait la paix, ça serait extraordinaire le progrès qu'on ferait, même au plan économique, même au plan là, matériel. C'est bien sûr que ça peut paraître désespérant. Mais à côté de ça, il y a tellement de belles choses. Il y a tellement d'entraide mutuelle. Et puis, quand je regarde mon Église, elle a eu ses scandales aussi. Mais quand je pense à tous ces derniers pontifes que nous avons connus, plus particulièrement depuis Léon XIII, le rayonnement de la papauté depuis qu'elle n'est pas une autorité civile. Elle a perdu ses moyens humains, mais elle a gagné par rapport à son influence morale, et qui ne va qu'en s'accentuant. Essayons d'imaginer ce que ça a pu vouloir dire, là, un pape qui s'en va visiter la Palestine, qui rencontre les autorités juives et les autorités palestiniennes, qui sont en guerre et puis en tension depuis des années et des années, et puis qui les convainc, les chefs de ces deux pays, de venir à Rome. Il ne s'est pas imposé comme négociateur. Je dirais, le pape se mêle de ses affaires. C'est un chef spirituel. Il a invité à prier. Mais il sait la force de la prière. Ce geste-là, il est extraordinaire. Et ça démontre l'influence que le pape, le chef de l'Église catholique, peut avoir sur des dirigeants de religion juive et de religion musulmane. Qui aurait pu prévoir ça, là? Il y a de quoi nourrir notre espérance. Et puis, bien évidemment, là, je pourrais vous donner des exemples en quantité, là, il faut que je m'arrête. Mais cet après-midi, vous allez avoir des ateliers, vous allez avoir des rencontres de prière, de partage. Habituellement, je pense que le conférencier là, relance. Déjà, relance ces rencontres-là. Là. Déjà, je vais vous dire ce que j'attendrai, moi, de votre part, ce que je suggère, en tout cas, là, que je vous suggère plutôt, je ne vous demande pas, je n'ai pas d'ordre à vous donner, mais je vous suggère de vous poser la question entre vous, là, que regardant ce que vous vivez, regardant votre entourage, quels sont les signes de désespérance et les signes d'espérance? Et je suis convaincu qu'en y regardant de près, vous allez reconnaître que le Seigneur accompagne son Église. Et que dans un monde perturbé, qui a l'air à s'éloigner des réalités spirituelles, il y a une soif. Et je vous donne rien que deux exemples. Je regarde les réactions qu'on a recueillies dans notre monde suite à la fameuse charte des valeurs, là, qui est devenue la charte de la laïcité, et puis le projet de loi 52 qui a été voté. Un projet qui reflète le désir qu'ont eu nos députés d'écouter ce que les gens disent. Les gens ont peur de mourir. Les gens pour qui la foi n'est pas présente dans leur vie et qui, par conséquent, ne peuvent pas avoir l'espérance qui trouve sa source dans la foi. Ça devient normal que ces gens-là aient dit « Oh, nos gens-là, on rencontre le monde, nous autres-là, là, puis on voit bien que ces gens-là veulent pas souffrir quand ils savent que leur vie ne pourra pas s'améliorer. Moi, je comprends ça, que des gens qui n'ont pas la foi, là, je comprends ça, qui disent « Pourquoi souffrir pour rien ? » La souffrance, ça ne sert à rien, ça. Et c'est vrai que la souffrance en elle-même n'a pas de sens. La preuve, c'est qu'on lutte contre la souffrance. C'est le rôle des médecins de lutter contre la souffrance. Mais ça n'est pas le rôle de l'abréger en recourant à ce qu'on a appelé l'aide médicale à mourir. On a abrégé ça d'une belle expression, là. Mais du pouvoir de mettre fin à la vie. C'est un enjeu énorme que nous vivons là-dedans, là. C'est énorme, puis c'est très révélateur. C'est révélateur des conséquences de l'éloignement de la foi. Sous une forme ou l'autre, que ce soit la négation de Dieu, que ce soit une conception d'un Dieu, là. Vous savez, les gens, là, qui vont dire « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive ?» À ce moment-là, quel Dieu, de quel Dieu il s'agit? Alors, étonnons-nous pas, là, que ça a eu ce résultat-là. On va peut-être se ressaisir, je ne sais pas, là, mais moi, en tout cas, là, ça me fait pleurer. Ça m'empêche pas de comprendre, encore une fois. Puis, je veux pas faire de brave, là. Je sais pas, moi, comment je vais réagir sur mon lit de mort, là. Je vais peut-être trouver ça dur, puis je vais peut-être me plaindre. Mais ça montre que nos grands malades ont besoin d'amour, d'abord. Avec ce que la médecine peut apporter dans les soins palliatifs, qui sont de plus en plus efficaces. Avec surtout la possibilité d'entourer d'attention et d'affection les personnes qui souffrent. Je suis convaincu qu'on a des instruments qui nous permettraient de ne pas avoir besoin de recourir à cette loi-là. Mais on est dans une transition, là, dans une période où je m'explique que ça arrive. Je ne juge pas sévèrement, je ne les envoie pas chez le diable, autrement dit, là, hein, mais je suis navré quand même. Il y a là un manque d'espérance évident. Alors voilà, je vous laisse avec ces réflexions un petit peu touffues, là, peut-être un peu. Je me suis plu à lire, pour me préparer un peu à ça, là, un livre intitulé « Tant de crises, tant d'espérance ». Et je trouve ça très révélateur comme titre. Nous autres, quand on parle d'un temps de crise, et Dieu sait s'il y en a eu des crises dans l'histoire de l'Église, et nous en vivons une crise à l'heure actuelle là, qui est énorme au Québec. On est porté à désespérer. Pourtant, le mot « crise » vient d'un mot grec qui veut dire « discerner ». Un temps de crise, c'est pas un temps de désespérance. C'est pas ça que ça veut dire, temps de crise. Ça veut dire, on passe à un moment, là, où on est presque obligé de se questionner, puis de se demander où on s'en va, de réfléchir sur ce qu'on vit. Temps de crise, temps d'espérance, ben moi, j'enlèverais le point d'interrogation qu'on met après. Parce que justement, parce qu'on est en crise, c'est une raison de plus pour espérer, quand je regarde la parole de Dieu qu'on vient d'entendre. C'est la grâce que je nous souhaite. Merci. Oui. Pardon? Ah, excusez, c'est Hélène Champagne, c'est une...